Dans son introduction au culte de dimanche dernier, Adrien a largement fait mention au thème de la montagne. La parole de Dieu n'est pas avare de descriptifs géographiques, qu'il s'agisse de reliefs, de déserts ou de plaines. Il est fréquent que dans la Bible, de nombreuses évocations de lieux se rencontrent. Et cela dès le livre de la Genèse. Pour ne prendre que deux exemples, dès l'épisode de Noé, on nous parle du mont Ararat. La tour de Babel, elle, se situe dans la vallée de Shinéar. Parfois, les données topographiques vont en s'intensifiant. Et on pense notamment à toutes les instructions que Dieu donne pour offrir des territoires à chaque tribu du peuple d'Israël une fois qu'il est arrivé en terre promise. Si ces mentions géographiques sont un peu moins fréquentes dans le Nouveau Testament, elles n'en restent pas moins bien présentes. Le livre des Actes nous permet de suivre les pérégrinations de l'apôtre Paul. Les évangiles nous permettent de suivre les déplacements de Jésus. Ce que je vais dire est un peu bizarre, mais il est important de le dire. Chaque fois, le lieu porte un nom. Chaque fois, le lieu porte un nom. Ce matin, je vous invite à partager quelques réflexions à partir de trois lieux évoqués dans le Nouveau Testament, et ces trois lieux partagent trois points communs. Le premier de ces points communs, c'est que ce sont des lieux innominés. Alors je sais qu'innominé est un néologisme, mais enfin, il a au moins l'avantage de préciser qu'il s'agit d'endroits qui ne portent pas de nom. Le deuxième point commun est qu'il s'agit de montagnes. Et le troisième point commun est qu'il s'agit de hautes montagnes. Donc le titre de ce matin, ce sera les trois montagnes, ou si vous préférez, les trois hautes montagnes innominées du Nouveau Testament. Le thème de la montagne figure en bonne place dans la parole de Dieu. On a parlé tout à l'heure du mont Ararat, mais on nous parle de Bazan, d'Éphraïm, de Galaad, Horeb, Nebo, Sinaï et bien d'autres encore. Reste que là, le Nouveau Testament nous parle de trois monts, montagnes, qui ne portent pas de nom. Alors on va faire une supposition, admettre une hypothèse. Si nous considérions que le ministère du Christ s'inscrit entre parenthèses ou entre guillemets, la première de ces parenthèses serait la première de nos trois hautes montagnes. C'est celle où se déroule l'épisode de la tentation. La deuxième haute montagne, si elle ne ferme pas, si elle ne clôture pas la parenthèse, annonce la fin imminente du ministère christique, puisque juste après cette parenthèse-là, Jésus va rentrer dans Jérusalem pour y vivre sa passion. C'est la haute montagne où se déroule la transfiguration. Nous traiterons à part et plus tard le cas de la troisième montagne. Cela dit, dans les trois cas, un des buts est de voir ou d'observer quelque chose. Et à chaque montagne va correspondre un regard particulier, un regard spécifique. Et nous dirons, à chaque montagne correspond un regard. Grand A, la haute montagne de la tentation. L'évangile de Matthieu, chapitre 4, et à partir du premier verset, nous raconte qu'après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus fut tenté par le diable. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et puis, au verset 5, le diable l'amène dans Jérusalem, le place en haut du temple, et ce n'est qu'après cela que les versets 8 et 9 ajoutent « Satan l'amena encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et de leur gloire. » Et nous savons que cet épisode se termine triomphalement à l'avantage du Christ. En musique, lorsque l'intensité sonore augmente, on dit que ça va crescendo. Et bien de la même façon, dans ce récit, il y a une sorte de crescendo des niveaux. Ça commence à plat, dans le désert, puis la première élévation conduite en haut du temple, et ce n'est qu'après cela qu'on nous parle de la très haute montagne. Soit dit en passant, il est pour le moins étonnant de voir que le Fils de Dieu se laisse charrier par le diable sans opposer la moindre résistance. En fait, tout se passe comme si Jésus acceptait l'idée de se faire trimballer comme ça par le diable, en réalité comme s'il y consentait. Une fois la hauteur atteinte, le diable déploie tout le panel de ses pouvoirs et de son patrimoine. Il montre à Jésus tous les royaumes de la terre et de leur gloire. Je voudrais signaler une évidence un peu bête. C'est qu'à cet instant T, l'observation des royaumes de la terre ne peut se faire que si l'on regarde vers le bas. Si je ne regarde pas vers le bas, il n'y a rien à voir. Et ça indique où se trouve le royaume du diable. Il est en bas. À chaque montagne correspond un regard. Le deuxième point à souligner, c'est que Jésus est redescendu sans son guide. Pour la redescente, le diable lui avait faussé compagnie. Verset 11. Alors, le diable le laissa. Je n'ai pas dit que Jésus est redescendu seul, parce que le verset 11 continue en disant « Et les anges vinrent le servir. » Mais enfin, drôle de guide, que celui qui, une fois atteinte la haute montagne, vous y abandonne. Abordons la deuxième montagne, grand B, la montagne de la transfiguration. Matthieu 17, verset 11, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit, on va se souvenir de ce verbe, sur une haute montagne, une. Il fut transfiguré devant eux. Nous venons de lire, Jésus les conduisit. Ici aussi, la montagne est haute, mais cette fois, on n'atteint pas le sommet par lévitation ou par transportation. Il faut gravir les pentes pas à pas. Et c'est à la suite de Jésus un cheminement qui conjugue et l'effort et la lenteur. On peut très bien supposer que face à l'invitation du Seigneur, les trois disciples auraient pu répondre par un refus. « Oh non, c'est trop loin. Oh, c'est pénible. Oh non, mais là, tu m'excuses, tu vois, mais j'ai pas le temps. » Non, non, non. Tous les trois, laissant là leur occupation, quelles qu'elles aient été, ont accepté de suivre le Maître. Ils l'ont fait, nous venons de le dire, au rythme de la marche, andante, à la vitesse du pas. Et de la même manière que Christ tantôt avait accepté de se laisser transporter par le diable, les disciples consentent à se laisser guider, à se laisser conduire par Jésus. Ici, ce qui va être donné à voir est sans lien avec ce que nous avons lu précédemment. Il ne s'agit plus d'observer les royaumes de la terre, mais une personne. Dans l'exemple précédent, nous avons précisé que la chose à observer ou à voir ne pouvait l'être qu'à la condition sine qua non de regarder vers le bas. Ici, ce qui est à voir ne peut l'être qu'à la condition sine qua non de regarder devant, droit devant. Matthieu 17, verset 2, « Il fut transfiguré devant eux. » À chaque montagne correspond un regard. Ici, ce n'est plus une gloire lointaine observée depuis une hauteur en baissant les yeux. Ce qui est à voir, c'est la gloire du Fils qui se déroule ou qui s'observe devant. Avant d'en venir à une première question, faisons un petit résumé. Montagne numéro 1, petit a. Pour contempler la gloire des royaumes du diable, il faut regarder vers le bas. Petit b, le guide vous abandonne en haute montagne. Montagne numéro 2, petit a. Pour s'émerveiller de la présence du Christ, il faut regarder devant. Petit b, le guide est présent dans la montée comme dans la redescente. Fin du résumé, première question. Existerait-il dans le Nouveau Testament une troisième montagne qui serait haute et sans nom? Un autre observatoire élevé depuis lequel, et d'un regard nouveau, c'est-à-dire ni vers le bas, ni devant, on pourrait assister à des choses jusque-là jamais vues, comparables à rien de connu jusqu'alors. La réponse est oui. Écoutons quelques extraits tirés des chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la Jérusalem nouvelle. Puis un des sept anges me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. À chaque montagne correspond un regard. Première haute montagne, il faut que le regard plonge vers le bas et on observe de loin. Deuxième haute montagne, on regarde le Christ devant. Troisième montagne, il faut lever les yeux, il faut regarder vers le haut et ce que l'on voit se rapproche de l'observateur. Alors si ces trois montagnes impliquent chacune un regard particulier, si toutes les trois sont hautes, si toutes les trois ne portent pas de nom, elles présentent un autre point commun. C'est la présence d'un guide ou l'action d'un guide. Première montagne, le conducteur, c'est le diable. Deuxième montagne, le conducteur, c'est Jésus. Troisième montagne, le conducteur, c'est l'Esprit-Saint. Ajoutons de plus, en plus, que ces regards ne sont pas interchangeables. Je ne peux pas voir la gloire du monde si je regarde vers le haut. Je ne peux pas voir la gloire du Christ si je regarde vers l'arrière. Et je ne peux pas voir la gloire de la Jérusalem céleste si je regarde vers le bas. Au point où nous en sommes arrivés, voici une deuxième question. Et nous, qu'avons-nous à faire de ces récits fantastiques? C'est bien sympa, ces super productions hollywoodiennes, cette magie à la Harry Potter, mais où donc dans ce merveilleux situer la banalité de notre quotidien? Quelle est face à l'écrasante puissance de cette symbolique la place de notre petit espace personnel? Nous avons dit qu'il y avait une corrélation entre un déplacement et un regard. Traitons à part l'un et l'autre. Grand 1, le déplacement. D'une certaine manière, il a fallu que dans le premier cas, Jésus accepte d'être transporté par le diable, pour que dans le troisième cas, son disciple Jean puisse être transporté, lui, par l'Esprit. Or, ce même apôtre, et nous parlons bien de l'auteur de l'Apocalypse, a cru et puis a consenti à répondre à l'appel du Christ pour le suivre. Si je crois, que Christ a triomphé de la première montagne tout comme il a triomphé plus tard de la mort par sa résurrection, si, comme Jean l'a fait, j'accepte de suivre le Seigneur pas à pas, alors moi aussi, en espérance, je pourrai le moment venu voir et contempler les choses à venir que réserve la gloire de Dieu. À présent, voici un test simplissime sur la nature de mon ressenti pendant mon propre déplacement. Petit A, j'aime bien petit A, petit B. Petit A, si l'élévation s'avère facile, si je m'élève rapidement sans assumer mon propre poids, si ni être gêné le moins du monde par la charge de mon péché, nul doute, je suis du verbe suivre le mauvais guide et je vais finir par me perdre. Petit B, si au contraire la montée pas à pas est malaisée, inconfortable, semée de pièges et de doute, si encombré de moi-même, tout empêtré dans la charge de ma nature pécheresse, je titube au point de chuter, mais si à chaque fois le guide me tend la main pour me secourir, c'est sûr, je gravis la deuxième montagne, je suis à la suite de mon sauveur et c'est le bon déplacement. Après le déplacement qui était le grand 1, grand 2, le regard. Comment faire pour avoir le bon regard vis-à-vis de Jésus? Comment faire pour regarder devant? Voici une illustration un peu facile. Imaginez la scène suivante. Vous êtes tranquillement chez vous, vous vaquez à vos occupations, lorsque soudain, ding-dong, quelqu'un sonne à la porte. Ça vous étonne parce que vous n'attendiez personne. Qui cela peut-il donc être? vous vous dirigez vers l'entrée et lorsque vous ouvrez la porte, à votre insu, sans que vous en ayez vraiment conscience, vous avez alors le regard le plus devant que vous puissiez jamais fournir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit, dans un laps de temps d'une insaisissable rapidité, d'identifier qui se tient à la porte et qui, il y a 2 secondes, sonnait. En cette micro-fraction de seconde, toutes vos capacités mentales convergent vers ce regard devant. La meilleure façon de découvrir, d'identifier, de regarder le Christ devant, c'est de lui ouvrir la porte. Un verset connu de tous et par cœur, Apocalypse 3, verset 20, « Voici dit le Seigneur, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » La seule possibilité, la seule qui nous soit offerte actuellement pour pouvoir assister un jour à ce qui adviendra sur la 3e montagne, c'est de regarder devant maintenant, c'est d'ouvrir la porte aujourd'hui. Ce qui revient à dire que mon regard futur est tributaire de mon regard présent. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 4. Si tu crois, verbe croire, conjugué au présent de l'indicatif. Tu verras, verbe voir, conjugué au futur simple de l'indicatif, la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons fait un test tout à l'heure sur notre propre déplacement. Si nous essayons de faire le même à partir du regard, nous obtenons des résultats très similaires. Et là, la question serait, qu'est-ce qui me fascine ? Vers quoi mes observations se portent-elles ? Dans quelle direction mon regard se dirige-t-il préférentiellement pour donner du sens à ma vie? Petit A. Si je regarde vers le bas, je regarde aux choses et aux gloires périssables. Je suis fasciné par Babylone, la ville du mauvais prince. Petit B, si je regarde devant, cela signifie tout simplement que j'ai ouvert la porte et que le Christ est entré. Il a pris contact avec moi. Il se laisse découvrir. Il se révèle. Et en le regardant, en ayant les yeux fixés sur lui, j'attends d'ores et déjà la gloire de la Jérusalem céleste, la ville où Dieu se tient. Une dernière précision avant de conclure. Il ne s'agit nullement, dans ce qui vient d'être dit, d'établir une compétition dans laquelle s'affronteraient d'une part les regards ordinaires que nous portons sur la banalité de nos quotidiens, et d'autre part, des regards dont la nature totalement désincarnée ne serait que spirituelle. Attention de ne pas être à la lettre. Allons à l'esprit. On peut très bien être à la suite du Seigneur et se réjouir des bénédictions qu'il nous accorde. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ, parce que je lui ai ouvert la porte, que je dois renoncer à faire des projets, à travailler, à changer d'appartement ou de voiture, à cesser de rencontrer mes amis, à ne plus pratiquer de sport ou de musique, sous prétexte que tout ça, poum, c'est le monde. Bien sûr que non. Ce n'est pas à ce niveau que se situent les regards dont nous parlons. Nous traitons ici des regards qui se portent sur telle ou telle gloire pour s'identifier à elle. Nous traitons du type de gloire que nous choisissons pour orienter la globalité de nos vies. Car c'est là que se situe la véritable compétition. Il y a d'un côté la gloire du monde et de l'autre la gloire céleste. Dit autrement, la gloire du diable contre la gloire de Dieu. Nous sommes là au cœur d'un sujet essentiel, au cœur d'un affrontement vertigineux, gloire contre gloire. Oh, qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais il faut conclure. À quelle gloire mon regard se réfère-t-il ? À quelle gloire ton regard, le tien, se réfère-t-il ? Quatre citations bibliques seront les mots de la fin. Proverbe 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face. Que tes regards se dirigent devant toi. Luc 9, verset 62. Jésus dit « Quiconque regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » 1 Jean 3, verset 2. « Nous le verrons tel qu'il est. » Et enfin, dernière référence biblique. Ésaïe au chapitre 56, versets 6 et 7, Dieu déclare « Je les amènerai dans ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Amen. Amen. Je vous invite à un temps de silence.